France Inter.
Le journal Alexis Morel, bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Les Ukrainiens expatriés dans le viseur des autorités à Kiev. Elles veulent rapatrier tous les hommes en âge de combattre. Et la Pologne voisine, qui compte de très nombreux réfugiés, se dit prête à aider l'Ukraine. Nous serons à Varsovie dans ce journal. Ça se tend dans les agences France Travail. Insultes, agressions physiques contre les agents, les signalements sont en nette hausse. Les syndicats y voient notamment les conséquences des polémiques et des réformes autour du chômage, vous les entendrez. Dans ce journal aussi, les JO dans 3 mois. Quelle retombée pour l'économie française cet été. 3 fois plus de changements de nom depuis la loi de 2022. Et puis cette révélation chez les gallinacés, les poules aussi rougissent.
Et à 7h45, un discours fleuve où il a été question de défense européenne, mais pas seulement. Emmanuel Macron a appelé aussi à doubler l'investissement au niveau européen dans les secteurs d'avenir pour rattraper les États-Unis et la Chine. Le programme du chef de l'État pour l'Europe passée au crible. Dans le débat éco, Thomas Porcher, Dominique Seux, ça sera juste avant le journal de 8h.
France Inter.
Pour le patron de l'OTAN, rien n'est joué en Ukraine, Alexis.
Malgré l'avancée des troupes russes, Kiev peut encore l'emporter. Il n'est pas trop tard, selon lui, à condition que les Occidentaux tiennent enfin leur promesse de livraison d'armes. L'armement, c'est une chose, mais il manque aussi des hommes à l'armée ukrainienne. Les autorités comptent les trouver parmi les expatriés, d'où cette annonce cette semaine. Les hommes ukrainiens ne pourront plus renouveler leur passeport à l'étranger. Façon de les forcer à revenir pour combattre. Et dans cet objectif, l'Ukraine pourra compter sur la Pologne. La Pologne où vivent plus d'un million de réfugiés. Varsovie se dit prête à aider sa voisine pour ses rapatriements. Sur place pour Inter, Adrien Sarla.
Au centre d'aide pour les réfugiés ukrainiens de Varsovie, la nouvelle a de quoi surprendre. Pour Lena, 58 ans, renvoyer les hommes en âge de se battre vers l'Ukraine n'a pas de sens.
Ceux qui étaient patriotes, qui pouvaient se battre, sont déjà là-bas. Ceux qui restent, ce sont ceux qui ne se voient pas manier une arme, ceux qui ne s'imaginent pas tuer quelqu'un, ou ont simplement peur.
Une peur que Natalia s'efforce, elle aussi, de comprendre.
Ces hommes devraient défendre le pays, mais cette mesure, c'est juste une façon de retarder l'intervention des pays occidentaux, une fois que tous nos hommes seront morts.
Alexandre a 60 ans, il n'est donc plus en âge d'être mobilisé, mais il l'assure, être à l'étranger ne fait pas de lui un mauvais patriote.
Mes enfants vivent en Pologne depuis plus de 6 ans. Et je ne dirais pas qu'ils ne sont pas patriotes, car ils sont dans tous les groupes d'aide. Ils recueillent des fonds pour l'armée, ils tissent des filets de camouflage militaire, et ce qu'ils font est nécessaire. Je pense même qu'ils sont plus utiles ici qu'en Ukraine.
Aujourd'hui, 93% des hommes ukrainiens travaillant légalement en Pologne ont entre 20 et 59 ans. Si la Pologne met sa menace à exécution, il risque d'être reconduit de l'autre côté de la frontière.
Adrien Sarla à Varsovie pour Inter. Et avec la Pologne, la Lituanie envisage elle aussi de soutenir, d'aider l'Ukraine dans ses rapatriements d'expatriés. Au Proche-Orient, ce n'est pas une solution miracle, mais tout de même l'espoir d'une intensification de l'aide humanitaire à Gaza. Les États-Unis ont lancé hier soir la construction d'une jetée sur la côte de l'enclave palestinienne assiégée. Elle permettra à des bateaux chargés de denrées d'accoster plus facilement. Ce conflit et ses échos sur les campus américains, où le mouvement pro-palestinien se généralise. Face au risque de tension, l'université new-yorkaise de Columbia annonce ce matin reporter l'évacuation des étudiants sur le site. Et en France, le siège de Sciences Po Paris a nouveau investi cette nuit par une cinquantaine d'étudiants en faveur de la Palestine.
Dans l'actualité aussi, le climat qui se tend au guichet de France Travail.
Oui, agression, incivilité en tout genre, intention suicidaire. Il n'y a jamais eu autant de signalements de tension dans les agences de l'ex-Pôle emploi. Plus 12% l'année dernière. Tous les indicateurs sautent au rouge dans un rapport interne révélé par Politis et que vous avez pu consulter également, Willy Moreau.
L'année dernière, 16 000 fiches de signalement ont été rédigées à travers les 900 agences du pays.
Ça peut être des insultes.
Vincent Lalouette, membre du bureau national du syndicat SNUFSU.
On a aussi la réception au courrier de l'agence d'une enveloppe contenant une balle. Avec un mot en disant « je vous tuerai tous ». Et puis le dernier niveau, c'est l'agression physique.
143 agressions physiques, 6900 agressions verbales signalées l'année dernière, ce sont des records. Depuis 2021, France Travail encourage ses agents à signaler tout incident depuis l'assassinat d'une conseillère à Valence. C'est une des explications assez hausses selon Laurent Méric, mais le président du syndicat SNAP en avance également une autre.
Les tensions qui existent notamment par rapport au marché du travail, à la pression qui est mise sur les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas suffisamment actifs dans leurs recherches et puis les inquiétudes aussi par rapport aux réformes de l'assurance chômage passées et annoncées font qu'effectivement les conditions d'accueil de nos usagers les amènent à être un peu plus agressifs verbalement et physiquement.
Des demandeurs d'emploi qui menacent de plus en plus de se suicider, plus de 3000 signalements l'année dernière. Le nombre a été multiplié par 3 depuis 2019.
Willy Moreau de France Info pour ce document de France Travail qui fuite au lendemain des derniers chiffres du chômage dévoilés par l'organisme. Chômage qui s'est stabilisé au premier trimestre à moins 0,1% après 6 mois de hausse. Beaucoup plus préoccupant pour l'exécutif, les chiffres du déficit et de la dette avant le verdict ce soir de deux agences de notation. Première réévaluation de la note souveraine française depuis les mauvaises nouvelles budgétaires du début d'année. Alors Fitch et Moody's vont-elles, oui ou non, l'abaisser cette note? Une dégradation pourrait, mais ce n'est pas automatique, renchérir le coût des futurs emprunts de l'État. D'autant que pour ne rien arranger, la croissance française ne devrait pas dépasser 1% cette année, à moins que les JO ne changent la donne. Emmanuel Macron espère 6 milliards d'euros de retombées pour l'économie. Est-ce crédible, Fabien Cazot ?
Selon les économistes qui ont commencé à travailler sur le sujet, il y a deux types de retombées économiques que la France peut attendre de ces Jeux. Les premières, ce sont les retombées immédiates, celles qu'entraînera pendant l'été la hausse de la fréquentation touristique. 1 200 000 touristes supplémentaires sont attendus en juillet et août. Leurs dépenses de consommation, d'hébergement, de transport viendront alimenter la croissance française. Certains parlent d'une hausse ponctuelle de 0,5% de notre richesse nationale pendant l'été, ponctuelle car la croissance trimestrielle devrait retomber à 0,1% ensuite en fin d'année. L'ordre de grandeur en termes de recettes sera donc de quelques milliards d'euros. C'est toujours bon à prendre, commente-t-on à Bercy, où l'on explique aussi miser sur un second type de retombées économiques, celles à plus long terme, comme par exemple l'impact sur l'image et l'attractivité économique de la France pour les investisseurs, qui dépendra aussi de la manière dont se dérouleront les Jeux.
Et à 3 mois pile de l'ouverture de ces Jeux de Paris, la flamme olympique va quitter ce soir la Grèce pour embarquer sur le Belém, le mythique 3 mâts. Nous serons sur place dans le journal de 8h. L'arrivée est prévue le 8 mai prochain à Marseille. Pour prendre le nom de leur mère plutôt que celui de leur père ou accoler un deuxième nom à leur patronyme original, 144 000 Français ont changé de nom de famille depuis que la loi le facilite grandement, c'est-à-dire depuis l'été 2022. Un simple formulaire en mairie suffit désormais, pas besoin de se justifier. Résultat, 3 fois plus de démarches qu'avant, selon l'INSEE, qui vient de tirer Gabriel Grécourt à un premier bilan de cette simplification.
Ces changements de nom sont demandés en majorité par des femmes, détaille Lionel Espinas de l'INSEE.
C'était déjà le cas avant la loi Vignal. On avait 54% de femmes et 46% d'hommes. Ce phénomène s'est accentué avec la loi Vignal, puisque maintenant on est plutôt à 57% de femmes et 43% d'hommes qui font la démarche de changer de nom de famille.
Une grande partie de ces femmes ont connu dans leur enfance des situations de violence familiale. C'est en tout cas ce qui ressort des milliers de témoignages recueillis par le collectif Porte mon nom, sa présidente Marine Gatineau-Dupré.
Ces femmes-là souhaitent changer de nom de famille pour oublier en fait le calvaire qu'elles ont vécu dans leur enfance. Donc que ce soit abandon, maltraitance ou violence, le but c'est de pouvoir se reconstruire et de commencer une vie adulte avec un nom qui va les aider à aller de l'avant et pas un nom qui les rappelle à toute cette horreur qu'elles auraient pu vivre. Ce qu'elles veulent en fait, c'est enlever le nom de leur bourreau.
Pour certains, c'est donc un moyen d'effacer un passé douloureux. Pour d'autres, changer de nom est l'occasion de faire exister le patronyme maternel en l'ajoutant simplement à celui du père.
C'est l'un des plus grands rassemblements de l'année pour les gens du voyage. Dans le Loiret, dès demain, 27 000 d'entre eux doivent participer à ce pèlerinage évangélique géant de l'association Vie et Lumière. Ils se réuniront pour prier et chanter sous un chapiteau de 120 mètres de haut. Ça doit durer une semaine et les organisateurs comptent bien, Julien Penaud, ne pas reproduire les erreurs de l'an dernier. L'année dernière marquée par des débordements et des dégradations.
Les caravanes s'installent en cercle. Les familles se regroupent comme celle de ces deux cousines de région parisienne, Marjorie et Shannon, assises sur des chaises de camping.
Pour prier,
exprimer notre foi, quoi, notre joie.
Et certains messages s'adresseront au chanteur tzigane, Kenji, qui se remet d'une blessure par balle.
Que Dieu le garde, qu'il protège, et surtout un jour s'il pourrait venir chanter pour nous à la commencée.
Car ici, la scène est un un énorme chapiteau. 8000 fidèles peuvent y prier, comme Rudy, venu de Tours.
On a tout le monde qui vient s'assembler sous cette église pour que tous les groupes partent évangéliser dans toute la France.
Mais la diffusion de la bonne parole a généré aussi des nuisances. Lors des précédentes éditions, le maire de Nevoy, Jean-François Darmois.
C'est souillé partout. L'eau sanitaire, on n'a pas à rentrer dans les propriétés pour faire ses besoins.
Réponse de l'organisateur, le pasteur Joseph Charpentier.
Nous avons mis plus de 130 WC répartis sur tout le terrain. Le gitan, c'est l'inconnu et on a toujours peur de l'inconnu. Mais justement, ce rassemblement, je veux démontrer à la population française que nous, Tziganes, gens du voyage, on peut se réunir à 25 000 personnes et que finalement, on peut vivre en bonne cohabitation.
400 gendarmes seront justement là 24 heures sur 24 pour s'en assurer.
Et pour la première fois, une jauge à 27 000 personnes maximum est instaurée pour éviter la surfréquentation. 40 000 participants l'année dernière.
Et puis Alexis, nous ne sommes pas les seuls à rougir quand une émotion nous traverse.
Eh bien non, figurez-vous que les poules aussi, quand elles stressent ou au contraire qu'elles prennent du plaisir, ça rougit dans le poulailler et ça vient d'être scientifiquement prouvé, oui oui, par l'INRAE, l'Institut de Recherches Agronomiques. L'étude a été menée en partie en Touraine, dans un élevage de Cléré-les-Pins, près de Tours, où s'est rendu Romain Desec.
Chez Manuela, éleveuse de races anciennes, plutôt surprise lorsqu'on lui a fait la proposition.
C'est Aline qui m'a laissé un message en me disant voilà, on cherche des éleveurs qui pourraient collaborer avec nous sur les émotions des volailles. Je ne vous cache pas qu'au départ, je me suis dit qui me fait une blague à deux balles ?
Aline, c'est Aline Bertin, éthologue passionnée par les oiseaux. L'idée lui est venue lors d'une visite.
Je me suis retrouvée oui, face à une petite poule Pékin. Elle est venue à mes pieds, donc je l'ai caressée spontanément. Et j'ai remarqué qu'elle changeait de couleur de peau en quelques secondes. Je me suis dit qu'elle avait potentiellement des marques d'émotions que j'ignorais.
Elle lance donc un projet de recherche en compagnie de Cécile Arnoux, également éthologue à l'INRAE.
Les gens qui ont des animaux vont vous dire qu'ils voient que leur chien ou leur chat ressentent des choses. Par contre, les oiseaux, c'est un peu les parents pauvres. Les poules, encore plus, c'est l'image de l'animal de basse-cour.
Vérification dans le poulailler de Manuela.
Je vais essayer de la prendre. Ouais, je veux bien que tu m'aides, ouais.
Autour de l'œil et au niveau des barbillons, donc sous le bec.
C'est rouge vif, hein. C'est groseille. Et vous allez voir, je vais la reposer, elle va pas lire.
Et pour l'éleveuse, cette découverte fut une petite révolution.
Et j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Ouais, ça y est, on a vu, on trouve ça génial, mais oui !» Voilà, la mission est accomplie, quoi.
L'idée, c'est aussi que ce travail serve la filière avicole, sensibiliser et à terme, adapter les méthodes de production au bien-être des poules.
Un reportage France Bleu Touraine. Voilà, les poules rougissent, mais ont-elles aussi la chair de poule ?
Vraie question.
Voilà un sujet de recherche futur.
Mais oui, un projet d'avenir. C'était le journal d'Alexis Morel. À suivre, faut-il demander aux Français l'origine de leurs parents quand on fait le recensement ? Élément de réponse dans l'édito politique.